Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
À tous, j'aimerais que nous poursuivions notre méditation de dimanche dernier. Alors, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Oui, nous avons ouvert la Bible. Nous avions parlé de Jésus. Bon, alors vous avez tout compris, mais on va retrouver donc notre précédente méditation. Alors, on avait parlé, et je voulais donner un petit récapitulatif, on avait terminé sur cette note où Jésus dira à ses disciples et à tous ceux qui veulent l'entendre dans le temps et dans l'espace, il dira donc, eh bien, prenez garde du levain des pharisiens. Vous vous souvenez de ça? Ouais, c'est bien. Donc, prenez garde du levain des pharisiens parce que le levain, c'est un principe qui doit faire normalement augmenter, lever la pâte. Alors, le levain, ça peut être une bonne fermentation, comme par exemple pour le pain, mais la Bible aussi donne un aspect négatif, où c'est l'image aussi du péché, du mal, qui finalement, eh bien, contamine, détériore, empoisonne. Alors, quand Jésus dit ça, c'est parce que justement, dans ce système des hommes de son temps, religieux, sadducéens, pharisiens, etc., etc., il y avait quelque chose qui n'était profondément mauvais. Par l'esprit religieux qui les animait, un esprit de despotisme, un esprit d'autorité, de commander et toutes sortes de choses, et Jésus dira, mais méfiez-vous, parce que vous savez, ils ont une bonne allure, ils ont une bonne mine, mais derrière, il y a des choses qui sont particulièrement mauvaises et pernicieuses. Donc la première partie, nous l'avions titrée tout simplement, Jésus, le plus grand révolutionnaire de la Terre. Et c'est vrai que, quand on regarde, eh bien, son histoire, on peut dire que ça a été le plus grand de tous les révolutionnaires. Il a amené véritablement, eh bien, un changement dans le monde. Et puis, dans cette deuxième partie qui fait suite à ce chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, eh bien, je l'ai intitulé « Le grand discrédit ». Ouais, parce que Jésus a donné déjà une partie du message. Maintenant, nous allons voir la suite. Et le grand discrédit. Alors j'espère que personne ne sera choqué ce matin parce que ce sont pas mes paroles, ce sont pas mes pensées, ce sont pas mes idées, mais c'est la dénonciation que Jésus fait à travers un réquisitoire, comme au tribunal, de l'état moral et l'état spirituel du monde de son temps, qui n'était pas quelque chose de très nouveau, mais qui a subsisté, qui a perduré à travers les siècles, c'est-à-dire les religions. Qui se prétendent parler de Dieu et qui, finalement, eh bien, rend un très mauvais témoignage du royaume de Dieu, du plan de Dieu, des vérités, finalement, eh bien, que nous sommes à même de découvrir dans l'évangile, ou comment, excusez-moi, je ne vais pas en parler beaucoup, mais ou comment, et ça c'est avec beaucoup de fermeté que je voudrais le dire, ou comment le diable a réussi ce tour de force à éloigner les hommes de Dieu. Comment il les a dissuadés d'avoir la foi? Comment il les a, excusez-moi, encore une fois de plus, mais dégoûtés de croire en Dieu? Et qui a ouvert une hostilité terrible. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de notre temps, avec tous les excès des siècles passés, de la religion. Nous pouvons parler de désaffection générale de la foi. Oui. Parce que les gens ne veulent plus entendre parler. Et on peut comprendre qu'ils ne veulent plus entendre parler de la manière dont on leur a présenté Dieu. Il y a un chanteur qui s'appelle Daniel Guichard, hein, qui a fait une chanson, vous l'avez entendu hein, déjà certainement. Il dira dans sa chanson, je n'en veux pas à Dieu, mais j'en veux à ceux qui m'en ont parlé. Ça veut dire ce que ça veut dire. À travers toutes sortes d'une éducation, à travers des sévismes, au nom de Dieu, le mal qu'on a pu faire aux hommes, et à commencer par les enfants, parce qu'on les a complètement détournés de ce que l'Évangile nous appelle la bonne nouvelle, et si c'est une bonne nouvelle, elle doit rester une bonne nouvelle, et être, en quelque sorte, une attirance irrésistible d'amour, de grâce, de vérité, de justice, parce que dans le cœur des enfants, il y a cela déjà. Alors c'est vrai que le monde complique les choses, parce que après ça va très vite dans l'autre sens. Et Jésus dira à un moment donné, à plusieurs fois d'ailleurs à ses disciples, il dira, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, vous connaissez le passage, hein, eh bien il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une corde autour du cou et qu'on le jette au fond de la mer. Vous rendez compte de la sévérité? C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est Jésus qui le dit, devant l'imposture, et je m'en tiendrai à ce qu'il nous est dit dans l'Évangile, l'imposture religieuse du temps de Jésus. Du temps de Jésus. Et on s'aperçoit que ça, c'était l'histoire des Juifs. Mais on s'aperçoit que le christianisme est devenu un christianisme d'histoire, un christianisme de légende, un christianisme de conte, un christianisme qui n'a plus rien à voir avec les paroles premières de Jésus. Et on comprend que les gens disent, on n'en veut plus. L'histoire et les conflits, les guerres, les confrontations, même mondiales, ont toujours eu un dieu d'un côté, un dieu de l'autre. C'était le même pour les deux. Mais allègrement, ils se sont tués. Ils se sont détruits au nom du même Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où le fait religieux reprend le dessus à travers peut-être pas le christianisme, mais à travers d'autres religions, parce que tout cela, qu'est-ce que, d'une manière ou d'une autre, s'il n'y a pas la vie de l'esprit, s'il n'y a pas la pensée du Saint-Esprit, s'il n'y a pas l'animation de l'Esprit de Dieu, dans ce christianisme-là, ce n'est qu'un christianisme religieux. Un christianisme avec une pellicule très fine de moralité ou de moralisme. Mais il n'y a rien derrière. Alors, on va revoir tout ça. Et voulez-vous, on va sauter de verset en verset, je les commenterai après, mais je voudrais quand même tout simplement relire Matthieu chapitre 23, verset 13. Et je vais passer des mots, hein, mais ça n'a pas d'importance, on va se retrouver, je vais vous donner les versets. Verset 13, Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume de Dieu. Verset 14, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves. 15, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. 16, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un dit jure par l'or du temple, il est engagé. Verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important. Verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux dehors, ça a dû leur faire plaisir. Malheur à vous, verset 29, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépultures des justes. Voilà ce qu'il nous est dit. 8, 7 à 8, réquisitoires sont formulés par Jésus dans cette situation. Et ces réquisitoires sont contraires finalement à l'esprit de l'Évangile, parce que l'esprit de l'Évangile, celui qui nous est donné, le serment sur la montagne, c'est heureux, bonheur. Et là, c'est malheur. C'est terrible, hein. Conséquence, tout simplement, de l'état d'esprit des pharisiens, parce que vous avez remarqué le mot, il est cité aussi autant de fois que nous avons lu ces versets, hypocrite. Ah, on verra un peu ce que c'est tout ça. Dont le vice de ces autorités religieuses du temps de Jésus était caché sous une façade de respectabilité, un cœur plein de malice et d'injustice. Ça, c'est quelque chose. Parce que on pourrait s'attendre à ce que si quelqu'un parle de Dieu, si quelqu'un prononce le nom de Jésus, bon, on n'est pas parfait. On est loin de la perfection. Mais néanmoins, il doit y avoir quand même, autant à l'intérieur, à l'extérieur, parce que c'est quand même l'intérieur qui reflète l'extérieur, hein, qui est la vitrine extérieure. Il doit y avoir quelque chose qui doit être tout à fait différent selon ce que Jésus nous a enseigné dans cet esprit qui doit être un esprit de vérité, un esprit d'amour, un esprit de justice, un esprit de respect aussi pour Dieu, mais aussi pour les uns, pour les autres. Alors, façade de respectabilité, ça fait bien. On le voit naturellement, on l'a vu et on le reverra tout à l'heure. Figurez-vous que le mot hypocrite vient du grec qui sert à décrire un acteur, un comédien, qui dissimulait derrière un masque, c'est ainsi que nous donne la définition du dictionnaire, qui joue un rôle. C'est un carnavalier, vous comprenez? Hein, parce que dans tous les carnavals d'ici et d'ailleurs, eh bien, il y a toujours naturellement un habit, un déguisement, et c'est bien pour se dissimuler parce que ce n'est pas la personne. Elle se montre derrière quelque chose qui, finalement, eh bien, la cache. Mais la réalité, elle est à l'intérieur. Hein. Et nous voyons que si Jésus a été si sévère avec les hommes et les femmes de son temps, non pas les prostituées, non pas les publicains, non pas ceux qui quelque part, eh bien, avaient mis derrière, eh bien, depuis bien longtemps, le temple et la synagogue et la loi de Moïse. C'est pas cela. Jésus a été particulièrement compatissant avec eux. Jésus a toujours détesté le péché, mais il a aimé le pécheur pour le sauver. Et nous nous apercevons que il a été terrible avec, finalement, c'était quelque chose de détestable, parce que cette attitude d'hypocrisie qui a été condamnée par Jésus avec la plus vigoureuse des fermetés. Et il aura dit des petits mots doux, hein. Oh, quelquefois qui peuvent nous choquer. Race de vipère, fils de la gêne. Waouh. Alors, aujourd'hui, on dirait plus ça, parce que, attention, non, mais c'est terrible. Et Jésus a été véritablement... Hein, parce que ce qu'il voyait, c'est qu'il y avait déjà des comédiens devant lui, des gens qui jouaient un rôle, mais à l'intérieur, ils étaient mauvais. Et ils se servaient de leur autorité, de leur position, ils avaient pignon sur bout pour écraser les autres. Jésus l'a dit. Hein. Le premier chef d'inculpation, figurez-vous, c'est le verset 13, alors je vais le relire. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Alors ça, c'est quelque chose d'aggravant. Il y a là quelque chose qui est caractérisé par cette odieuse attitude que d'empêcher de parvenir au salut ceux qui veulent. C'est-à-dire mettre des obstacles, mettre des barrières pour dire « Nous, nous sommes la vérité. Nous, notre religion est la meilleure, il n'y en a pas d'autre. » D'abord, ça se voit, hein. Non, non. Et ça, c'était quelque chose de scandaleux. Il y avait une base, un terrain, un fondement commun à Israël. C'était le judaïsme. Mais le vrai judaïsme, c'était celui de Moïse. C'était celui de ces hommes de foi, grands prophètes de l'histoire, qui ont jalonné toute cette période. Mais les pharisiens, dans leur excès, dans leur légalisme, dans leur étroitesse d'esprit, dans leur petitesse d'analyse et de compréhension, avaient dit « il n'y a que nous, nous sommes les plus beaux, les plus intelligents, les plus religieux, les plus spirituels, etc. Et les autres, c'est le bas peuple. » Et là, je peux vous dire que c'était quelque chose de terrible. Et ça, Jésus ne le supportait pas. Faut-il le dire encore? Il ne le supporte pas. Alors que ces conducteurs religieux avait pour mission primordiale de favoriser l'approche de Dieu et d'entraîner et d'amener les gens finalement à aimer Dieu. Et résultat, c'est qu'au lieu de l'aimer, ils ont fini, et particulièrement tous ces gens de mauvaise vie, ils ont fini par haïr Dieu par le témoignage que les hommes donnaient de Dieu. Vous savez, l'histoire se répète aujourd'hui, hein, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous savez, il ne faut pas trop parler de Dieu. Hein, parce que ça passe mal. Les gens ont été cautérisés, vous comprenez, soit de par leur petite enfance, parce qu'ils ont une éducation tellement, tellement folle, tellement rigide, tellement inconsidérée et tellement éloignée de l'Évangile qu'ils ne veulent plus en entendre parler. Si Dieu c'est ça, eh bien c'est pas la peine de m'en parler. Et la raison de cette opposition, c'était précisément, eh bien, leur aversion de Jésus, parce qu'ils voyaient en Jésus un rival. Il voyait en Jésus un concurrent. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. Nous avions parlé justement de cette rivalité. Ils avaient envie Il portait envie à Jésus. Il se disait, mais qu'est-ce que c'est que cet homme, ce pauvre paysan de Galilée qui vient de ce petit village de Nazareth, il est en train de faire la révolution dans notre institution? Il est en train de renverser le temple? Il est en train de renverser, finalement, ce que 20 siècles de judaïsme a fait? Ah oui, mais il y avait des raisons pourquoi Jésus était venu. Alors, ils étaient en opposition à Jésus, ils étaient en opposition à la vérité de Jésus, ils étaient remplis de préjugés. Et il y a quelque chose qui caractérise le monde religieux, c'est les préjugés. Et vous savez ce que ça veut dire, préjugés? C'est juger avant de connaître et avant de comprendre. Le formalisme conventionnel. Vous savez, il y a quelque chose qui caractérise nos sociétés judéo-chrétiennes, c'est ce formalisme conventionnel. C'est ainsi, ça ne sera pas autrement. C'est la loi des Mèdes et des Perses. Et puis si vous pensez autrement, vous êtes un exclu, vous êtes un paria, vous êtes excommunié. Dans le domaine religieux, c'est ça. Hein. Ça l'a été dans les siècles passés. Hein. Le monde protestant a tellement souffert de ça qu'on en sait ce qu'il en est. Hein. Et c'était pas des petites peines, hein, c'était tout simplement la roue, la prison, la galère, ou tout simplement, la mort. Pour dire, mais nous pouvons penser quand même un petit peu différemment de vous. Est-ce que nous avons lu l'évangile? Alors, nous croyons que l'évangile c'est la vérité, que Jésus est sauveur. Alors là, ça coûtait véritablement, la condamnation capitale. On n'avait pas le droit de penser autrement. C'est tout. Et ça, c'était le problème. C'était le problème des pharisiens et des scribes. Jésus dira, mais vous n'y entrez pas vous-même. Et vous empêchez les autres d'y entrer. Il y en a qui ont besoin. Il y en a qui ont des besoins spirituels. Il y en a qui ont des aspirations. Mais vous leur fermez la porte. Vous les dissuadez. Qu'il n'y en ait pas d'entre nous qui puissent procéder de cette manière parce que c'est très grave. Quand Dieu attire, il faut pas mettre les gens en fuite. Hein. Parce que c'est pas moi, c'est pas vous qui attirez les gens. C'est Jésus qui les attire. Et si nous, par une incompréhension ou par je ne sais quel zèle, je dirais pas le mot, mais nous faisons des obstacles, nous essayons de casser la route des gens, mais écoutez, nous aurons des comptes à rendre. Hein. Ah oui, parce que c'est pas notre affaire, c'est l'affaire du Seigneur. Et moi, je me réjouis de ce que le Seigneur encore attire des hommes et des femmes, de toute catégorie, de toute classe, de tout âge. Alors, ne les empêchons pas de venir à Dieu, hein, à moins que nous voulions qu'ils viennent à nous, qu'ils viennent dans notre chère petite église, parce que là, ils seront bien. Mais on ne fait pas des gens pour en faire des membres d'une église, mais on en fait pour en faire des sauvés dans le royaume de Dieu. Je crois que c'est clair, hein. Vous savez, le zèle religieux, quand il n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, est un grand mal. Jésus l'a dit. Jésus l'a répété dans ce réquisitoire qui nous est donné dans Matthieu. C'est un monument qu'il nous a laissé, qu'il laissait à ses disciples d'hier et qu'il nous laisse encore à nous, les chrétiens d'aujourd'hui, pour dire, attendez, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas la nôtre. Il produit, ce zèle, le fanatisme prosélyte, aveugle et sectaire. Les sectes, elles sont nées de quoi? Elles sont nées de cette extrapolation, de cet excès, de cette boursouflure, de penser que nous sommes seuls dans la vérité et que tous les autres sont perdus et que finalement, c'est nous les meilleurs. Les sectes qui pullulent partout. Il y a toujours à la tête d'une secte, il y a toujours un gourou. Et l'église de Jésus-Christ, c'est pas un gourou, c'est pas un pasteur, c'est même pas un président de convention comme nous avons chez nous. Le chef, c'est Jésus, on l'a vu. Ne vous faites pas appeler père, un seul est votre père. Ne vous faites pas appeler directeur, un seul est votre directeur, c'est le Saint-Esprit. Ça corrobore à ce que nous avions dit la semaine dernière. Il produit donc un fanatisme non éclairé, aveugle, sectaire. Et c'est un comportement qui fait la preuve d'une conscience déréglée. Sans cœur, impitoyable, en opposition ouverte avec le salut, tout simplement. Il y a quelqu'un dans un commentaire que je lisais qui dit « Les pharisiens, c'était des éteignoirs ». Vous savez que dans le temple de Jérusalem, comme aujourd'hui dans les églises, il y a des bougies. Et puis il y a l'éteignoir. Vous savez ce petit bâton-là avec un petit chapeau comme ça, pour éteindre? Eh bien, faut pas éteindre la vie. Hein. On n'est pas là pour éteindre la vie, on est là comme Jésus le dira. Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Même s'il y avait une petite lumière dans le cœur et dans l'âme de quelqu'un, il faut souffler pour qu'il puisse éclairer. Des éteignoirs, moi j'ai bien aimé ça. Hein. Des étouffoirs d'élan spirituel. Voilà. Dans Romains, chapitre 10, j'aimerais donner cette version, cette pensée que Paul nous laisse simplement et verset 2. Pierre dira, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Ça, c'est la priorité des priorités pour les Juifs d'hier et pour les chrétiens d'aujourd'hui. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ça, c'est sûr. Il n'y a aucun problème. Et il ajoute ceci, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la volonté de Dieu, à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Là, je voudrais simplement ouvrir une courte pensée. C'est qu'un chrétien, digne de ce nom, rentré dans le royaume de Dieu, repenti, converti à Jésus-Christ, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, mais en tous les cas né de nouveau, c'est quelqu'un qui vit non pas dans l'Ancien Testament, qui ne vit plus sous la loi, mais il vit dans la grâce. Et là, ça change tout. Parce que notre démarche n'est plus un devoir, n'est plus un esclavage, n'est plus une servitude, mais notre approche de Dieu, c'est un bonheur qui est fait de joie, parce que nous l'aimons, et quand nous aimons des choses, c'est très facile de les faire. Mais si on fait comme à la manière de Simon le Cyrène, qu'on a chargé de la croix de Jésus, et que nous avons des chrétiens qui ploient toute leur vie parce que c'est dur d'être chrétien, parce que c'est triste d'être chrétien, parce que ça nous écrase, et ceci et cela, ben c'est pas la peine d'être chrétien. Je suis remonté ce matin. Ouah. Mais il faut que vous le sachiez. On s'aperçoit que les pharisiens croyaient être en faveur à Dieu, mais ils étaient des réprouvés. Et Jésus va leur dire et leur montrer. Il y avait un fait gravissime aussi qui est relevé par Jésus chez ces hommes. C'est la rapacité pour le bien détourné chez les sans défense et les vulnérables. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves. Et vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Vous dévorez, nous est-il dit, la maison des veuves. Et l'apparence derrière, pour sauver la face, ni vu ni connu, c'est très bien, c'est monsieur un tel, c'est monsieur le sacrificateur, c'est monsieur le rabbin, c'est monsieur le pasteur. Voilà. Et vous avez vu ce qui est dit avant? Quelque chose. De profiter de la faiblesse. Abus de faiblesse est condamné par la loi dans notre pays, hein, n'est-ce pas? Et de profiter finalement que nous avons affaire à des gens sans défense pour les dépouiller. Et cette scandaleuse prière, devenant un artifice pour endormir la confiance de leurs victimes. Ah, vous faites de longues prières. Ah, vous priez devant les gens, vous priez dans les rues, on l'a vu la semaine dernière. Vous priez comme ça, debout, pour que tout le monde dise « Mais quel homme! Il est formidable! Il doit être super spirituel !» Eh bien justement, c'est une belle hypocrisie. Parce que Jésus nous dit tout le contraire. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Non pas d'une manière ostentatoire, en disant, quelquefois ça peut arriver dans nos églises aussi. Alors que ça vous coupe pas l'élan pour prier, pour louer, je préviens quand même, hein, d'accord? Vous n'allez pas dire, ah ben Alain, il a dit que quand je prie plus de 30 secondes, c'est terminé, je suis un païen. Non, non, multipliez pas de vaines paroles. Non, mais si c'est pour faire la démonstration, qui on prie? On prie le Seigneur, on prie pas notre frère et notre sœur, ou pour être entendu des autres, on prie le Seigneur. Et c'est là que nous trouvons l'essence même de la prière qui est spirituelle, où tous nous pouvons dire « Merci Seigneur, Amen » à ce qui a été dit. Le jugement sera d'autant vigoureux parce qu'il y a préméditation de faire du mal. Vous vous rendez compte, voler des veuves, une femme qui est sans soutien naturel, qui peut-être a des enfants à nourrir, eh bien, les pharisiens ne se gênaient pas lorsque, au décès du mari, ils arrivaient dans la maison en disant « Vous n'avez pas un petit don à faire pour Dieu ?» qui devenait un gros don parce qu'ils servaient eux-mêmes. C'est terrible, hein? Il y a des histoires comme ça dans le christianisme. Ouais, ouais. Des histoires abominables, où des gens ont mis la main, des gens prétendument religieux ont mis la main sur la fortune, sur les héritages, des uns et des autres, hein. Ben Jésus nous dit tout le contraire. Le verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne. et ajoutez « pire que vous ». Ah, vous courez ciel et terre. Vous avez tellement un zèle pour Dieu, pour remplir votre synagogue, pour remplir votre chapelle, pour remplir votre église, c'est que là vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Ah oui, c'est sûr que tout peut être fait pour en faire un prosélyte. Est-ce qu'on est appelé à faire des prosélytes ou est-ce qu'on est appelé à faire des frères et des sœurs qui vont connaître Jésus et qui dépendront de Jésus, non pas de nous? Le prosélytisme, c'est quelque chose de terrible. Écoutez, vous en avez quelques nouvelles tous les jours en ce moment. Le prosélytisme qui se fait en Europe pour aller se battre en Syrie ou en Irak, c'est bien du prosélytisme. Des gens qui n'en connaissent rien de l'islam, ou peut-être des islamiques qui se réveillent et qui vont découvrir que finalement, eh bien, il faut faire le djihad, et apporter le feu et le sang sur la terre entière. Quel résultat? La destruction. La mort. Tout inspire la mort. Mais on n'est pas appelé à faire des prosélytes. Nous sommes exhortés à faire de l'évangélisation dans nos églises. Mais attendez, dans le respect des autres. Non pas de bousculer les gens, comme certaines sectes le font, vous savez, en mettant le pied dans le pas de la porte. Vous l'avez le malheur de leur ouvrir la porte, faut leur couper le pied après, hein. Ils partent plus, hein. Enfin bon, je ne cite pas. Mais toujours est-il que, non, écoutez, il y a une méthode qui est beaucoup plus facile. Priez donc, et demandez à Dieu qu'il vous fasse rencontrer des gens qui ont faim et soif. Des gens qui aspirent. Et là, vous allez voir qu'il y a des choses extraordinaires, parce que c'est pas vous qui aurez provoqué. Vous aurez été mis en disposition pour rendre témoignage à quiconque demande raison de votre foi et vous répondrez avec douceur. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Eh? C'est une citation de l'évangile. On n'a pas à dire aux gens, si vous ne vous convertissez pas à Jésus, vous irez en enfer. Alors là, je peux vous dire que vous avez perdu la partie sur toute la ligne. Ben, quand on est chrétien, d'abord on laisse parler les gens. On les écoute. Vous savez, comme Jésus, avec ce jeune homme riche, il nous est dit qu'il l'a regardé, ensuite il l'a aimé, et après il lui a parlé. Souvent nous faisons le contraire, et nous parlons, finalement, à tort et à travers. Et là, c'est pas comme ça qu'on gagne les gens. Non, c'est Dieu qui conduit les hommes, les uns vers les autres, et si nous sommes des réceptacles et obéissants, à ce moment-là, il va y avoir une question qui sera posée, mais répondez aux questions, ne suscitez pas des choses où les gens sont à 10 000. Ils vont vous regarder, ils vont dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-ci? Il comprendra rien. » On n'est pas à faire du prosélytisme. Tout aussi grave, cette mise en accusation, cet empressement sectaire que Jésus dénonce à faire de nouveaux adeptes, non pour qu'ils soient sauvés, mais à les gagner à leur mauvaise influence. C'est ce que Jésus dira. « Vous en faites des disciples ?» qui vont devenir pires que vous. Ben, c'est pas la peine, parce que quelquefois, l'élève dépasse le maître à un moment ou à un autre. Il est plus terrible que celui qui lui a annoncé finalement, cette fausse doctrine. Ça, c'est quelque chose de redoutable. Oui. C'est ce que Jésus dénonce. Et nous-mêmes, croyez bien, et ça je vous l'ai dit, ça fait 10 ans, que je vous le dis, que je vous le répète. Nous, on n'est pas là pour faire du nombre. Ouais. Il y a parfois des pasteurs qui sont très heureux d'annoncer et de faire passer ça dans toutes sortes de choses, d'informations. Voilà, nous avons gagné tant de personnes cette année, nous avons plus de place, etc. etc. Ça peut arriver. Et il y a une authentique bénédiction aussi, quelquefois. Il ne faut pas voir les choses uniquement dans le sens critique. Mais quelquefois, c'est de vouloir se rassurer eux-mêmes en disant, vous savez, regardez, on a gagné des âmes, on a gagné des âmes, on a gagné des âmes. Ben moi, je ne crois pas que ça soit la chose que Dieu nous demandera quand on arrivera de là-haut. Parce que gagner des âmes, c'est pas nous qui les aurons gagnées, c'est Jésus. Alors quelquefois c'est vrai que j'entends bien et je partage aussi avec vous votre tristesse en disant bien c'est vrai quelquefois il y a des gens qui viennent qu'on ne voit plus, ils sont partis, etc., etc. Écoutez, c'est pas pour nous, c'est pour le Seigneur, hein. Et si on travaille pas uniquement pour notre communauté de Saint-Nazaire ici dans cette église ou à Redon, on travaille pour le royaume de Dieu. Et vous verrez qu'on aura des surprises de l'autre côté. Ouais, c'est Jésus qui sauve, c'est pas nous. Alors, c'est pas le nombre. N'allons pas mettre l'objectif sur la quantité, mais mettons l'objectif suprême sur la qualité. Parce que vaut mieux avoir une petite communauté avec quelques dizaines de personnes bien converties, aimant Jésus de tout leur cœur, entièrement à Jésus, que d'en avoir 300 ou 400 des gens qui ne seraient pas convertis. On a connu ça, hein? Alors, leur mauvaise influence est devenir pire que vous, Et il leur propose pas le ciel, il leur propose l'enfer. Tout simplement. Tout zèle qui ne procède pas de l'amour procède de l'amour propre. Voyez la différence? Nous. Uniquement nous. Et ça, c'est odieux. Verset 16. Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, dit Jésus, lequel est le plus grand, l'or ou le temple, qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Là, ce sont des considérations théologiques qui n'ont plus rien à voir avec finalement, eh bien, ce que Jésus nous enseigne. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu. Et celui qui est assis. Spécialité de faire des compartiments et de faire des échelons, etc., etc. Ouais, ça, c'est vraiment les méthodes des hommes. On est loin de la simplicité de l'évangile. Il vaut mieux venir à Dieu plutôt qu'à ses saints. Je suis la vérité, je suis la vie, je suis la... Le chemin. Ben voilà, vous m'écoutez ce matin, c'est bien, hein. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, il dit Jésus, c'est pas moi, hein. Il dit Jésus, tout simplement. Alors, ce verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Malheur à vous, et il signera finalement, conducteurs aveugles. C'est une cinglante apostrophe, mais si juste. Et Jésus a raison de leur dire ça, car les autorités religieuses ne se souciaient nullement de conduire les âmes à Dieu, mais le comble de l'aveuglement, celles-ci ignoraient à la fois le chemin et l'expérience qui mène à Dieu. C'était le cas de Nicodème, évangile de Jean, chapitre 3. Oui, chapitre 3. Cet homme qui était bienveillant, hein, pharisien, mais bienveillant vis-à-vis de Jésus, qui était venu en catimini la nuit parce qu'il voulait pas être reconnu comme une autorité spirituelle, frayant avec Jésus. Il lui dira, mais moi je sais que nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Là, il avait déjà compris l'essentiel. Et or, Jésus va lui répondre tout simplement, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Notre brave Nicodème, qui est un enseignant, qui est un professeur de théologie, qui enseigne les sommités en Israël, va pas comprendre ce que Jésus va lui dire. Qu'est-ce que c'est que naître de nouveau? Mais moi, pouvait-il dire, j'ai 60, 70 ans, est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère et naître à nouveau? Non, 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 c'est pas une naissance naturelle, c'est une naissance spirituelle. Et il va lui expliquer tout ça, hein. Il va lui expliquer tout ça, et moi je crois que Nicodème, il a certainement compris la leçon, parce qu'on le retrouvera plus tard, et moi je pense qu'il a vécu quelque chose de formidable, une rencontre, parce que on vient à Jésus que par une rencontre, vous comprenez? C'est pas un baptême d'enfant, hein, parce que là, c'est pas une adhésion à une religion. Et quand il est donné cette parole, nous voyons que il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est que les maîtres à penser de l'époque, les pharisiens, les sadducéens et les uns et les autres, pensaient tout connaître, et ils connaissaient tout, sauf l'essentiel. Ils ne savaient pas comment on pouvait être sauvé, comment on pouvait plaire à Dieu, ils n'étaient même pas nés de nouveau, comment voulaient-ils qu'ils puissent apporter aux autres? Eh bien là, cette parole, il y a également dans un titre, ce message qui m'a toujours laissé un petit peu dubitatif, mais je comprends quand même ce que ça veut dire dans chapitre 1, verset 16, il est dit ceci, en parlant des pharisiens, en parlant de tous ceux qui sont avec un esprit comme eux, ils font profession de connaître Dieu, ils disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables de toute bonne œuvre. Vous vous rendez compte? Est-ce que l'on pourrait pas appliquer ça quelquefois, eh bien, aux faux, aux sectaires, à tout ça? Ah, ils parlent de Dieu. Ils ont la bouche pleine de Dieu. Seigneur, Seigneur. Mais Jésus répond, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui finalement font ma volonté. Ça change les choses. Que peut-on apporter ou apprendre aux autres si soi-même on méconnaît Dieu, sa parole, sa volonté, son plan de salut? Et nous voyons que il y avait derrière tout cela, eh bien, quelque chose qui était particulièrement odieux à Jésus, parce que dans leur mesquine cupidité, les pharisiens avaient monté tout un système inique permettant de justifier au nom de Dieu leur infidélité et leur parjure. C'est ce qui est dit. Si tu jures par l'autel, si tu jures par l'or de l'autel, si tu jures par le temple, etc. Mais là, c'est un labyrinthe. Quelle complication! Premièrement, on ne jure pas. On ne jure pas. Tu ne jureras pas. Parce que qui peut jurer? Il y a Dieu qui peut jurer, qui peut faire des serments. Pour la bonne raison que quel est l'homme qui serait suffisamment parfait pour dire « je jure ceci, je jure cela » et qui mène à bien finalement ses paroles. Parce qu'à partir du moment où on jure et on ne tient pas parole, on devient un parjure. Tout simplement. Alors eux, ils y allaient avec les promesses, mais ils s'arrangeaient bien parce que derrière ça confortait un peu leur position. Se servir de la sainteté de Dieu pour couvrir le crime et le mensonge, voilà ce qu'ils faisaient. Versets 23, 24. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amande, de la nette, du cumin, toutes les herbes du jardin, hein, et vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer en premier, sans négliger les autres choses. Et Jésus va leur donner cette parole cinglante, conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Alors je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tout cela peut avoir pour signification? Malheur à vous! Ah! Vous payez la dîme de toutes les herbes du jardin. Ah, c'est parce qu'il y avait une, ça c'était pas dans la, finalement c'était pas dans la loi, hein. Mais vous laissez le plus important, et le plus important pour Dieu, c'est la justice, c'est la miséricorde et la fidélité. Alors, pour nous dire, à quoi peut servir la plus noble et la plus belle et la plus grande des scrupulosités, la plus grande de toutes les orthodoxies chrétiennes, le rigorisme, si à côté de cela, on oublie l'essentiel? C'est une sotte négligence. C'est un manque d'intelligence. Beaucoup de systèmes religieux à travers le monde ont cette fâcheuse manie de dresser des listes de règles pour gouverner les autres et la vie intérieure d'autrui. Mais la vie intérieure, ça regarde qui? Ça regarde le Seigneur et ça me regarde moi. Et de pas dire, eh bien voilà, aujourd'hui tu vas t'habiller comme ça, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, parce qu'il n'y a pas que finalement des engagements qui ont un caractère éminemment religieux. Ça peut être la vie tout court, hein. Quand on respecte tout simplement la décence, d'accord, parce que ça c'est pas l'Évangile qui nous le dit, c'est le monde entier qui nous dit. Il y a des règles de décence. Mais autrement le reste, que je mette une cravate orange, voyez, elle est pas orange, non, que je m'habille de cette manière, si je suis convenable, bon, voilà. Mais quand on oblige les gens à dire, voilà, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, comme dans beaucoup de religions, on porte un habit quand on est religieux, hein. Ouais. Ben, vous ne me verrez pas en soutane. C'est pas de mal à veille, hein. Et quand on voit tout ce décorum, quand on voit, excusez-moi, mais je vais mal finir, hein, mais quand on voit tout ce tralala pour distinguer les gens en disant, ah, voilà, ceci et cela, mais écoutez, on n'est plus, vous croyez que Jésus, il avait une tiare? Vous croyez qu'il avait une crosse? Vous croyez qu'il était, mais il était habillé comme tout le monde, il vivait comme tout le monde, il était au milieu de tout le monde et il était auprès de tout le monde? Mais c'est pas la peine de se donner un habit, c'est pas la peine de se donner un col blanc, c'est pas la peine de ceci et cela. Vivons ce que nous avons à vivre dans notre temps, parce que si nous voulons que l'Évangile soit crédible auprès des hommes de notre temps, il faut vivre dans notre temps. Et non pas deux ou trois siècles en arrière. Parce que ça ne sert à rien, hein. Ça ne sert à rien. Vous savez, c'est pas tant de quoi nous sommes habillés qui est important. C'est ce qui sort de notre cœur. Et la manière dont nous approchons des gens, c'est ça ce qui est important. Alors, on a donné toutes sortes de règles. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. C'est ce que Paul dit dans les Philippiens, non, dans les Colossiens. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière. Ne mange pas, ne touche pas, ne goûte pas, ne regarde pas, ne vis pas, ne respire pas, vous êtes mort. Ça va pas plus loin que ça, hein. Ben oui. Parce que ce sont des choses qui ont une apparence de la piété, mais quelque part, ça ne fait que nourrir l'orgueil. Je suis orgueilleux d'être. Je suis orgueilleux d'être, finalement, eh bien là, un rabbin. Je suis orgueilleux d'être un pasteur. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Moi, je me suis jamais pris la tête avec ça, hein, parce que je voulais pas être pasteur. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe souvent. C'est quand on ne veut pas qu'on l'ait. Puis il y a des gens qui sont en train de taper du pied en disant « je voudrais être pasteur parce que j'ai quelque chose à dire ». Eh ben ceux-là, souvent, ils font du mauvais travail, hein, parce qu'ils ne présentent pas Jésus, ils se présentent eux-mêmes. Bon, Je règle pas mes comptes. Hein. Bah, vous me connaissez un petit peu. Vous croyez pas que Jésus était courroucé quand il voyait ces choses, ce cinéma dans les rues de Jérusalem, et toute cette comédie qui existait en Israël, cette belle nation où Moïse avait donné des choses extraordinaires parce que la loi de Dieu, elle est bonne, elle est juste, elle est sainte, mais on l'avait souillée à travers le comportement des hommes. Ouais. Pitoyable imitation de ce que Dieu veut et attend. Et ce que Dieu attend, c'est l'amour fraternel. C'est que nous puissions nous aimer, nous respecter, même si on n'est pas du même avis, même si, voilà, ceci et cela, c'est différent. Il veut la paix et l'unité dans l'Église. Vous coulez le moucheron et vous avalez le chameau. Parce qu'ils avaient l'habitude, les Juifs, encore aujourd'hui, quand ils prenaient une boisson chaude, de prendre une passoire, de peur d'avaler un moustique. Il y a quand même une différence entre un moustique et un chameau. Ben, il y a le dromadaire qui n'a qu'une bosse, ça fait déjà 100 en moins. Puis le chameau, il en a deux. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Bon, je m'y connais pas grand-chose. Hein. Mais toujours est-il qu'ils faisaient avec beaucoup de scrupulosité quand ils prenaient une boisson chaude. Ils avaient une grande passoire. Et attendez, hein, fallait absolument pas. C'est-à-dire que tout ce qui était minuscule et petit, ils faisaient très attention. Et quand Jésus leur dit, vous avalez le chameau. Ça voulait dire que vous êtes vraiment des aveugles. Parce que vous êtes en train de vous ruiner votre vie, votre santé, et puis vous donner un exemple déplorable aux autres, en essayant de trouver la moindre petite erreur. Par contre, quand il s'agit des choses grossières, comme Jésus est en train de leur dénoncer, alors là, vous n'y voyez rien de rien. Et vous êtes prêt à avaler le chameau de la tête à la queue. Hein. C'est pas écrit, hein, c'est moi qui le dis en plus. C'est pour dire l'aveuglement qu'il y avait. Je finis bientôt, j'espère que je ne vous ennuie pas. Ça va? Ah ben je suis encouragé par quelqu'un qui me dit que c'est très bien. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne aussi net. Ah, mesdames, demandez donc à votre mari de faire la vaisselle. Pourquoi pas? Ça en fait sourire certaines. Nettoyez le dehors, mais le dedans est plein de mauvaises choses. Ça veut dire, vous tenez au brillant de l'extérieur, vous les pharisiens. Vous donnez l'éclat, finalement, à tout ce qui peut être vu autour de vous. Mais votre cœur est noir. Il est souillé et il est mauvais. Et Jésus leur dénonce deux crimes graves et secrets. Le premier, c'est la rapine. Et moi, je voudrais vous rappeler ce que c'est saisir ou s'emparer avec violence de quelque chose qui ne leur appartient pas, mais comme ils sont sous le couvert, finalement, eh bien, d'un magistère, à ce moment-là, on se donne tous les droits permis. Et puis, l'intempérance, c'est sans avoir le contrôle de soi et de dignité pour soi et pour les autres. La vraie nature dissimulée sous une façade de respectabilité, c'est ainsi qu'il se présentait. Tout simplement, vous nettoyez très bien l'extérieur, mais à l'intérieur, ça n'a pas dû leur plaire. Et on comprend que Jésus a été crucifié quelque temps après. Ah, ils ne supportaient pas tout ça, c'est tout à fait normal. Et je finis, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui dedans sont pleins d'ossements de mort, de toute espèce d'impureté. Ah, au dehors, vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Waouh! Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Ça fait plaisir quand vous entendez une chose pareille. Tu ressembles à une tombe. Bah oui, blanchi en plus, nettoyé. Hein. Pour nous dire, et Jésus veut le communiquer, la mort peut être habilement maquillée. Mais la mort, c'est la mort. On peut toujours mettre du fard. On peut toujours mettre quelque chose en apparence pour dire, il est encore vivant, mais il est mort. Bon, c'est ce qui se passe en préparation funéraire, je discute pas là-dessus, ça ne me regarde pas. Mais ce que Jésus dit, quelque part, eh bien, la réalité, elle est là. Et c'est une sombre image de l'homme, même dévot, nous dit Jésus, qui ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la mort, il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la joie, il est le Dieu de l'épanouissement, il est le Dieu où l'on peut véritablement, eh bien, connaître ce que veut dire le mot bonheur. Heureux serez-vous. Et on peut paraître bien vivant, mais moralement et spirituellement mort. Est-ce que nous n'avons pas ce texte dans le livre de l'Apocalypse où Dieu dira, l'Église entendra de la part de l'Esprit de Dieu, tu passes par être vivant, mais tu es mort. Vous connaissez ce texte, hein? Tu passes pour être. Ah oui, mais c'est pas de passer pour être, c'est d'être réellement vivant. Et c'est ce qui était dit d'ailleurs justement dans ce texte. Et je termine avec le verset 29, hein, où les choses nous sont présentées. Voilà, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez leurs sépulcres, et vous dites, ah, si nous avions vécu dans ce temps-là, oh, nous n'aurions pas fait la même chose. Vous bâtissez les tombeaux, vous ornez les sépulcres. Œuvre d'autant impie que scandaleuse, qui masque un cœur criminel. C'est ce que Jésus leur dit, leur fait comprendre. Tuer, éliminer, se débarrasser par le meurtre, par l'assassinat, puis ensuite encenser la victime. Ah, si nous avions su, nous ne l'aurions pas tué. Mais il est mort depuis déjà, voilà. Et ça, c'est de génération en génération, vous comprenez? Ça, c'est l'esprit mauvais. C'est l'esprit du mal, absolument. Et ça s'est fait combien de fois? À travers l'histoire, à travers les guerres de religion, à travers toutes sortes de choses, et même sans parler de religion, et là, je ne voudrais pas m'attirer des ennuis, mais ne serait-ce que cette année, où il y a eu des millions et des millions de morts que nous commémorons, des pauvres garçons, des pauvres hommes, des pères de famille, etc., etc. Et aujourd'hui, nous sommes en train de qu'on rende un hommage. C'est normal, ils ont donné leur vie, et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à ces hommes, à ces braves, à ces courageux. Mais écoutez, écoutez. Ils n'ont rien demandé, hein. Ils n'avaient rien demandé. N'est-ce pas le comble de la folie humaine? Et quand c'est religieux, c'est encore autre chose, hein. Procéder ainsi, c'est se condamner devant Dieu. Si nous avions su. Eh bien, écoutez, il y a bien des gens qui nous disent encore, si j'avais été au moment où Jésus a été crucifié, moi, je me serais opposé. Eh bien, je peux vous dire que le monde entier, il n'en a rien à faire. Et aujourd'hui, il est prêt à recrucifier Jésus, à la première occasion. Parce qu'il est vraiment embarrassant, Jésus. Parce que nous sommes condamnés devant un Dieu qui était témoin de toutes les fêtes qui ont été enjolivées, qui ont été empoudrées, qui ont été blanchies, toutes sortes de choses. À quoi bon ériger les monuments aux morts et décorer les tombes de ceux que l'on a fait mourir? Les prophètes et les justes, je me tiens à cela. Hein. Est-ce que c'est ce qu'a fait toujours les religions à travers les temps? Les religions des faux croyants. Jésus leur remet en mémoire leurs actions infamantes au verset 34, quand il est dit ceci, « C'est pourquoi voici je vous envoie les prophètes et les sages et les scribes. Vous tuez les crucifiez les uns, vous battez les autres de verges dans vos synagogues, vous les persécutez de ville en ville, afin que le sang innocent eh bien coule naturellement. » Et vous savez, figurez-vous, c'est ce qu'ils oseront faire à Jésus quelques semaines, quelques jours plus tard. Ils le crucifieront. Et pourquoi? Parce que Jésus a dit la vérité. Il aura dit leur vérité. Il a dévoilé finalement devant tous, eh bien, leur cœur. Vous dites, nous n'avons pas vécu du temps de nos pères, mais si nous avions vécu en leur temps, eh bien, nous ne serions pas joints à eux. En d'autres termes, vos protestations peu sincères ne font jamais oublier que vous êtes les dignes fils de vos pères meurtriers, prêts à recommencer et en pire leurs œuvres criminelles. Je finis, 35, quand je dis je finis, hein. Vous le savez, ça, hein. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur terre depuis le sang d'Abel, le juste courant de Zacharie, fils de Barachie, et que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur votre génération. Alors, faudrait lire la suite après pour ce qui s'est passé, hein. Mais je dis tout simplement, très rapidement, tout simplement, vous comblez, alors comblez la mesure de vos iniquités. La coupe est prête à déborder. À remarquer ceci, ce réquisitoire des plus solennels que Jésus ait adressé au monde, il l'a adressé au monde religieux. Au monde religieux qui se réclame d'une bonne moralité. Malheur à vous, hypocrites. C'est ce que Jésus dit, tout simplement. Et je crois que quand Jésus a prophétisé, parce que c'était une prophétie en quelque sorte, depuis Abel, premier livre de la Genèse, et dans la classification de la Bible hébraïque, Zacharie, fils de Barachie, c'est le dernier dans le livre. Donc, c'était le premier et le dernier. Mais entre eux, il y a eu des siècles et des siècles de condamnation à mort, de justes qui ont été crucifiés, de justes crucifiés ou martyrisés ou tout simplement, eh bien, éliminés. C'est ça ce que ça veut dire. Je vous le dis en vérité, eh bien, tout cela ne retombera sur votre génération. On revient au moment où Jésus a été condamné par Pilate. Pilate dit, cet homme n'a rien fait de mal. Tout le monde a crié, crucifie, crucifie-le. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Oh, dites donc, ça n'a pas raté. 40 ans après la crucifixion de Jésus, vous connaissez, le général de l'Empire romain, Titus, est venu, il a tout nettoyé, la Palestine et Jérusalem. C'est ce qui a fait la diaspora que nous connaissons encore aujourd'hui. 2000 ans des temps des nations où les Juifs sont répandus dans le monde entier. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Eh oui. J'aimerais terminer par un proverbe russe, georgien particulièrement. Il est dit ceci, et ça, vous allez voir, c'est assez, j'ai trouvé ça que c'était assez caustique. Pendant que le prédicateur prêchait l'évangile, je répète, pendant que le prédicateur prêchait l'évangile au loup, le loup, celui-ci ne songeait qu'à dévorer l'agneau. Ça va? Vous avez compris ce que ça veut dire? Vous voulez que je le répète? Pendant que le prédicateur prêchait l'évangile au loup, le loup ne pensait qu'à dévorer l'agneau. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. C'est du sérieux, hein? C'est très sérieux. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Nous croyons que si Jésus a donné ces mots et ce réquisitoire, ces paroles tellement vigoureuses, sérieuses, sentencieuses, c'est qu'il y a des raisons, le monde est malade. Et le monde n'est pas là malade uniquement, Seigneur, par des faits, Seigneur, qui appartiennent à ceux du monde, à ceux qui ne te connaissent pas. Mais un des plus grands maux qui existent, un des plus grands mal qui existent, c'est de voir que le diable s'est servi de la religion pour détourner la vérité, pour amener les hommes et les femmes, eh bien là, à haïr Dieu, voire même à crucifier Jésus. Et encore aujourd'hui, te bénissons et nous te remercions, donne-nous Seigneur de ne pas être des hommes de religion, de ne pas être des hommes de religion, des hommes de l'âme religieuse, mais donne-nous des hommes de l'esprit, parce que l'esprit de Dieu, il est juste, et il nous conduit à imiter Jésus, à vivre comme Jésus, à parler comme Jésus, et à aimer comme Jésus. Merci mon Dieu, merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.